passionnante, celle du docteur Joël Etcheverry, qui va nous parler des résultats de l'étude Les Esprits Libres, qui a inspiré un magnifique film documentaire de Bertrand Angemüller. Docteur Etcheverry, c'est à vous.
Je ne suis pas docteur. En tout cas, oui, non, il n'y a pas de
souci. Il y avait écrit. Hein,
mais voilà, oui, il y avait une erreur sur le premier programme. Je ne suis pas docteur. Je remplace le docteur Laure Joitel, effectivement directrice médicale Elena Santé, qui a mené cette étude et qui ne pouvait pas être présente et qui m'a demandé de la représenter. Je suis infirmière, voilà, je suis quand même dans le métier, et directrice de l'EHPAD Le Mas à Côte-Bleue, située à La Couronne. Alors, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Avant le film, peut-être, je voulais juste présenter. J'ai pas
vous attendez un film un diaporama, un film, pardon. Est-ce qu'on peut lancer le diaporama?
Alors, c'est bon. Ça y est, voilà. Merci. Donc, effectivement, je viens vous présenter au nom du docteur Laure Joitel l'étude menée, une étude clinique menée qui s'appelle Les Esprits Libres. Effectivement. Ce film documentaire dont le réalisateur sociologue Bertrand Angemüller a accepté, c'est pour ça qu'il va y avoir un court extrait du film, a accepté de partager cet extrait-là, c'est d'abord une folle histoire, une aventure, où des soignants, des artistes, on parlait tout à l'heure, je ne sais plus c'est à quel moment de l'après-midi, que l'art était important aussi dans l'accompagnement des maladies neuroévolutives. Donc ce sont des soignants, des artistes, des patients bien sûr touchés par la maladie d'Alzheimer qui se sont rejoints et qui effectivement ont décidé de créer et de vivre ensemble une résidence théâtrale où l'art, et pas que le théâtre, il y a le théâtre, la poésie, la musique, il y avait des musiciens. Et puis effectivement, toute une équipe de tournage ont mené ce projet pendant 15 jours. Ils sont partis vivre pendant 15 jours dans un manoir. 30 protagonistes qui ont été filmés. Et avant de vous présenter les résultats de cette étude et surtout les trois questions derrière cette étude qui nous amène à une réflexion à l'EHPAD de demain, je vais vous laisser visionner les quelques minutes, ça dure 4 minutes, un extrait de ce film qui sortira prochainement en salle. Peut-être aurez-vous envie d'aller le voir aussi. Donc,
la nuit dernière, j'ai rêvé que je m'en allais. Je savais pas où, mais je m'en allais. Et je suis pas arrivée. Je me suis retrouvée pareil. Pareil, dans la même maison, avec les mêmes gens. Pareil. Je pense que je vis ici. Ça me tarde. Bon. J'y viendrai. Non, en fait, j'y reviendrai jamais, à mon avis.
Anne-Marie. Faites-moi un sourire.
Qu'est-ce que je peux faire pour arrêter un mal qui te rogne dans l'intérieur? Je sais pas si on peut en guérir ou pas. Toujours est-il que les Alzheimer est à l'œuvre, quoi. Et ça me... Pardon.
C'est assez pénible, mais il faut essayer de se débrouiller, si je peux m'exprimer ainsi. Mais l'expression est bonne, se débrouiller. En fait, ça veut dire clairement, on n'y pense jamais, mais ça veut dire clairement se défendre contre le brouillard.
On va commencer. commencer juste par s'étirer un petit peu, le plus possible même en fait. Ah, on peut bâiller très très fort. Oh ouais. On va imaginer, vous savez, les gros ballons de gymnastique. Vous voyez qu'ils sont très légers, qu'ils sont très gros. Ok, je peux vous le passer? Vous l'attrapez?
Il est énorme, celui-là.
Il est énorme, hein?
Genre, derrière, on trouve à vous, vous êtes superbe. C'est superbe. Pardon, je m'égare un petit peu, là.
Ouais.
Le théâtre, c'est rarement quelque chose de définitif. Je crois qu'il peut nous faire découvrir des choses, nous faire changer.
Enlevez vos mains maintenant. Que je tienne la balle.
Oui,
faut que vous enleviez vos mains.
On y va? Vous êtes prêts pour les improvisations?
Bah oui.
Bon,
on essaye, hein?
C'est moi qui t'ai fait, je t'aime et tu restes avec moi. Ah ben c'est dur, hein? C'est dur et coupant. Hein.
Dans le théâtre, il y a des réparties. C'est ça qui m'intéresse.
Pourquoi dans la vie, il n'y a pas de réparties?
Si. Mais c'est moins poétique que ça.
On crâne pas, si vous voulez, mais... On veut bien faire sortir notre carapace. Quoi.
Au théâtre, on peut faire sortir des choses.
Bah, écoute, peut-être pas les faire sortir, mais les faire sentir.
Moi, j'ai pas envie d'aller avec les vieux là qui. Regarde-les. Regarde. Ils sont affalés là.
Vous vous êtes fait plaisir.
Ah oui, oui.
Parfait. Merci. Okay.
D'applaudir, c'est magnifique et je crois qu'on a tous envie d'aller le voir.
c'est qu'un extrait que j'ai vu plusieurs fois aussi et pourtant à chaque fois, voilà, c'est assez la même émotion, effectivement. Donc on va rebondir parce qu'il y a quand même derrière un travail sérieux qui a été mené, répondre effectivement à trois questions finalement de cette expérience. Quel est l'impact sur la qualité de vie et la santé des résidents? Quel impact sur la qualité de vie au travail des soignants? Et finalement, quelles sont les pistes de l'EHPAD de demain, d'un centre du bien vieillir? Alors, la première question, déjà quelques verbatims. Parce qu'effectivement, la méthodologie, c'est qu'il y a eu, effectivement, sur la base d'évaluation, un aspect quantitatif qui a été relayé, étudié, mais il y a eu aussi, mené par le docteur Laure Joitel, des entretiens semi-directifs pendant le séjour sur le site du manoir et avec 7 heures d'enregistrement. Ces verbatims, il y en a quelques-uns qui ressortent. Donc là, ce sont effectivement les verbatims des résidents, des questions qui ont été menées. Et c'est vrai, voilà, moi, j'avais entouré ici, on est vivant. Il n'y a pas d'étiquette de malade à l'EHPAD, effectivement. Voilà, j'ai l'étiquette de malade. Je n'ai pas vu de soignant ici. Ça re-questionne aussi les tenues. Un vaste sujet. Je suis tout à fait capable. Ça, c'est un verbatim, effectivement, qui ressort des entretiens qui ont été menés auprès des résidents présents. Les soignants aussi ont été interviewés et effectivement, ce qui est ressorti pendant ce séjour, c'est que le sentiment de sous-estimer beaucoup les personnes qu'ils accompagnent au quotidien sur l'EHPAD. Ils ont bien eu le sentiment qu'ils étaient vraiment chez eux dans ce manoir, alors que finalement, on les déracinait encore d'un lieu de vie. On disait que tout à l'heure, ça peut être perturbant de changer de lieu de vie. Là, on aurait pu on les amener dans un manoir grand ouvert avec des escaliers. Les sanitaires étaient au premier. Je vous passe les questions de sécurité, le parc grand ouvert, les portes, aucune porte fermée à clé. Tout était là pour effectivement peut-être créer de l'insécurité, créer des perturbations. Ben non, les résidents se sentaient chez eux. Pas de froideur institutionnelle, effectivement. Et puis, les enfants, qu'est-ce que c'est bénéfique? Parce que je ne vous l'ai pas dit, mais effectivement, donc, il y avait des résidents, des soignants, des artistes, mais aussi des familles de soignants, donc épouses et enfants, qui sont venus pendant ce séjour. Et effectivement, les artistes et bénévoles, qui n'avaient pas eu forcément de formation spécifique par rapport à la maladie d'Alzheimer, effectivement, eux aussi ont eu la possibilité, au niveau, je dirais, qualitatif, de pouvoir s'exprimer. On est dans un lieu de vie, quoi. C'est un lieu vivant. C'est la vie à 100%, tous ensemble. La musique qui apaise, le théâtre, l'art qui... Les messieurs interviewés dans le film le disent mieux encore. Et Pia, donc, c'était une petite fille d'un soignant qui a 30 mois, bah, c'était un médicament pendant ses jours. Voilà. Encore mieux que tous les psychotropes qu'on peut donner. Alors, il y a quand même une étude derrière sérieuse qui a été menée, effectivement, sur la qualité de vie. Il y a différentes échelles qui sont utilisées. Ce qui est à noter, effectivement, c'est d'une manière globale. Alors, le T0, c'est avant le séjour, pendant le séjour, et le T2, après le séjour, le retour en établissement. Ce qui a été évalué sur les trois items, notamment sur la qualité de vie, c'est l'autonomie fonctionnelle, les tâches quotidiennes. Pendant le séjour dans le manoir, tout le monde faisait tout, résidents inclus. Et effectivement, on voit bien que sur la qualité de vie globale, on voit bien que ça a une grande satisfaction, en tout cas pour les résidents, sur leur qualité de vie. Effectivement, la santé perçue, c'est moindre parce qu'il y a quand même maladie, hein, neuroévolutive, donc c'est difficile pour eux et les échelles ne sont pas toujours adaptées. Sur la qualité d'environnement aussi, on voit bien que pendant le séjour, il y a une nette amélioration. Le retour est plus difficile, notamment le retour est plus difficile sur la notion de l'autonomie. Alors sur la notion de l'autonomie, il faut savoir aussi que l'échelle qu'on utilise n'évalue pas forcément toujours le quotidien de la personne. Et effectivement, l'institution, ça re-questionne, laisse-t-elle assez de place à l'autonomie dans les actes de la vie courante quand la personne arrive sur l'établissement. Au niveau effectivement comportement et traitement, le retour effectivement sur les troubles du comportement, notamment les troubles du comportement qu'on dit productifs, hein, qui sont l'agitation, l'anxiété, l'irritabilité, la désinhibition qu'on peut connaître aussi, on voit bien qu'il y a une nette diminution pendant le séjour. Au retour, ça remonte, un peu moins fort qu'avant. Mais c'est le séjour, on voit bien les effets bénéfiques, en tout cas, de cette expérimentation. Sur les psychotropes, pas forcément de grandes modifications sur la prise médicamenteuse, parce qu'il n'y a pas eu de changement thérapeutique, il n'y avait pas de médecin sur place pour faire des modifications de traitement pendant ces jours. Ce qui est sûr, quand même, c'est que les 6 besoins dans vos ordonnances de vos proches ou si vous êtes professionnel des résidents que vous accompagnez, il y a toujours, enfin pour certains résidents, on a des fameuses ordonnances si besoin, si état d'agitation majoré, si n'ont pas été donnés. Ça n'a pas été tracé pendant ces jours, mais effectivement, le retour des questions à dire, c'est qu'il n'y a eu aucun si besoin de distribuer pendant le séjour. Donc, sur la santé donc, globale des résidents, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a le nombre de chutes. Je rappelle qu'on est dans un manoir complètement insécuritaire, dans le jargon institutionnel, où on a parfois tendance à mettre trop de sécurité pour le bien-être du résident. Mais pour autant, effectivement, tout était là pour qu'ils se perdent, pour qu'ils tombent dans les escaliers, qu'ils sortent tout seuls, qu'ils se coupent en préparant le dîner, qu'ils je ne sais quoi. Il n'empêche qu'il y a eu une nette diminution des chutes, parce qu'on les a évaluées avant, on pouvait chuter en institution ou au domicile, et effectivement, pendant le séjour, non, il n'y a pas eu. Et effectivement, sur les autres évaluations, sur la perte d'autonomie, c'est difficile de l'évaluer parce qu'il y a quand même une maladie. Et la maladie, elle est là. Et il y a quand même des gestes de la vie courante qu'ils ne peuvent plus faire ou qui ont besoin d'être accompagnés. Donc sur ce système-là, c'était pas flagrant les résultats quantitatifs. Pour autant, il y a aussi le questionnement de ces fameux échelles qui n'évaluent pas correctement le quotidien, les actes de la vie courante qui pourraient être proposés aux résidents. Donc ça, c'est sur la partie accompagnement et résultats pour les résidents pendant ce séjour. Et puis, sur la qualité de vie au travail des soignants, aussi quelques verbatim, hein, je ne vous les lis pas tous, mais moins de réunions. Moins de réunions. Il n'y avait qu'un seul débrief journalier. Plus de réunions, plus de temps passé en réunion. Les choses les plus simples dont ils ont besoin, de réaliser que finalement, des fois, on peut réfléchir à beaucoup, beaucoup de choses en institution, puis au final, c'est les choses les plus simples qu'on ne met pas en œuvre et qui sont finalement la première réponse aux besoins des résidents. On n'était plus des soignants, des infirmiers, ni des psychologues, ni des musiciens, on était tous ensemble. On était tous ensemble et dans le même objectif. Moins de pression aussi pendant ce séjour. Sur la qualité du travail, il y a quand même des échelles sur lesquelles le docteur Joatel s'est basé, effectivement, où on voit que l'exigence mentale, la charge mentale est forte et effectivement a diminué pendant le séjour et remonté un peu plus au retour en établissement aussi. Parce que ben, pendant ce séjour, on a vécu différemment, il n'y avait pas de hiérarchie, il y avait une organisation, tout le monde, avec ses compétences bien évidemment, mais tout le monde faisait en sorte que ça se passe bien. Chacun considérait, là je vais le noter, c'était les paroles un petit peu du réalisateur, chacun était considéré comme une source de valeur pour le groupe. Les compétences, les savoirs, les créativités et les capacités individuelles étaient valorisées. Finalement, retrouver le sens premier de nos métiers. Et ça, effectivement, on le voit bien au niveau du séjour pour les équipes. Il y a une baisse de la charge mentale. Il y a une marge de manœuvre qui est plus forte, effectivement, plus d'autonomie décisionnelle dans sa journée de travail. Et le sentiment, je viens de le dire dans la phrase, d'être écouté de pouvoir aider les collègues. Plus de soutien pendant le séjour. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, finalement, c'est une étude qui a ses limites. Déjà, au regard du nombre de la petite taille, je dirais, de l'échantillon évalué, la non-représentation quand même, il faut le dire, de la population étudiée, parce que ce n'étaient pas des personnes à un stade avancé de la maladie qui ont participé à ce séjour, avec une conservation quand même de l'autonomie relative. En tout cas, il n'y avait pas de fauteuil roulant pendant le séjour sur les personnes qui y sont allées. Et il n'y avait pas de groupe témoin aussi comme une étude plus complète clinique. Pour autant, ce n'est pas moins source d'enseignement pour explorer en tout cas des pistes autour de l'EHPAD de demain. Et effectivement, donc, l'EHPAD de demain, surtout que l'EHPAD de demain, finalement, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit prendre ce virage. C'est aujourd'hui qu'il faut... encore plus remettre le lieu de vie dans lequel on fait du soin. Et effectivement, pendant des années, on s'est formé, on est monté en compétences, c'était nécessaire par rapport aux populations que l'on accueille. On s'est diversifié, il y a plein de thérapeutes maintenant qui interviennent dans nos établissements. Il y a 20 ans en arrière, il n'y avait pas de psychomotricienne, il n'y avait pas d'ergothérapeute, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas d'art-thérapeute, il n'y avait pas de poétesse qui venait dans nos établissements. Donc effectivement, il y a eu cette notion de soin qui était très importante. Demain, aujourd'hui, cette étude vient en tout cas, et au sein du groupe Elena Santé, c'est une ambition forte, vient nous questionner, nous permettre d'explorer, d'essayer autre chose. Alors évidemment, on ne va pas transformer tous les EHPAD en manoirs, c'est pas possible, on ne va pas accueillir tous les résidents dans des manoirs, mais l'idée c'est redonner du sens à nos institutions, que ce soit des lieux de vie vivants. Que l'environnement soit facilitateur de nos accompagnements et prendre un vrai virage domiciliaire. J'interviens régulièrement dans différents établissements pour aider les collègues dans leurs réflexions. Et trop souvent, et j'inclus mon établissement, trop souvent on arrive dans un salon qui est très joli, qui est agréable, dans des petites unités. Mais souvent maintenant je m'assois à côté avec les soignants dans le salon, je dis « Est-ce que ça ressemble à votre salon chez vous ?» Ah ben non, ben justement, il y a quoi de plus dans votre salon qu'il n'y a pas ici, dans l'établissement ? Ah ben j'aurais mis des coussins, j'aurais mis ici. Ben allons-y, mettons des coussins, des plaides, de la décoration, des plantes, des livres, plus de virages domiciliaires et plus de réflexion sur comment mener une vie ordinaire en laissant une part belle aux résidents de pouvoir d'agir. On a des petites cuisines dans nos unités. Finalement, on va à vouloir être un peu trop sécuritaire. Là, c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a aussi une responsabilité. Et il faut la partager, cette responsabilité, avec aussi les familles. Mais se dire finalement, ben, dans cette cuisine, pourquoi on ne la laisserait pas accessible aux résidents ? Peut-être avec certains placards fermés, avec des produits qui peuvent être nocifs, dangereux, parce qu'avec la perte d'autonomie ou cognitif, on pourrait utiliser un produit à mauvais escient. Mais finalement, Madame X, tous les jours, elle faisait sa vaisselle chez elle. Pourquoi ne pas lui laisser la possibilité de continuer à faire sa vaisselle ? Voilà. Donc c'est vrai que c'est toutes ces réflexions-là sur le lieu de vie avec beaucoup de questions éthiques, bien évidemment. J'étais la semaine dernière ici présente, il y avait l'université d'automne sur l'éthique et les maladies neuroévolutives, et c'était des sujets de fond très percutants, de se reposer la question pourquoi, de redonner du sens à tout ce que l'on fait. L'accomplissement professionnel, on en a parlé tout à l'heure, mais la notion du care, ça c'est important, d'arrêter, je pense, de sortir de l'idée du résident, je vais peut-être être un peu direct, mais du résident objet de soins, mais qui redevienne acteur de sa vie, même en institution, malgré les troubles cognitifs, malgré la vie en collectivité, de retrouver une relation duelle soignant-soigné. Ce matin, il y avait une formation pour les professionnels de santé où on disait être présent, être au présent avec la personne. Quand je fais mon soin, à quoi je pense? Est-ce que je suis avec la personne? Est-ce que je suis dans l'échange, dans l'écoute, dans l'empathie, dans la sollicitude? On en parlait ce matin. Ou est-ce que je suis en train de dire, oh là là, il y a encore deux résidents derrière, et puis effectivement, après, il faut que j'appelle Madame Intel, et puis après, il faudra que j'aille faire ci, il y a le repas. Non, à l'instant présent. Peut-être plus de liberté dans nos organisations, dans la planification, dans nos plannings, en tout cas de réfléchir à comment on peut, sur l'instar de ce qui a été vécu, comment on peut revoir tout cela. Et finalement aussi, toute la notion d'inclusion. On a parlé de l'intergénérationnel, la petite Pia, qui est un médicament, bien sûr. On le voit ô combien, hein, quand les enfants du personnel viennent dans la résidence, les enfants, les arrière-petits-enfants viennent dans l'établissement. On voit des sourires, on voit des personnes qui ne parlent pas à parler, on voit l'ambiance qui change. Les familles, effectivement, la place des familles partenaires doivent être beaucoup plus présentes dans nos institutions. Et tout cela, effectivement, dans une notion de centre de bien vieillir, parce que c'est illusoire, je pense, de se dire qu'il n'y aura plus d'EHPAD demain. Par contre, ce seront des EHPAD différents. C'est une expertise de la gériatrie, aujourd'hui, les EHPAD. On a des compétences sur les établissements. On a des professionnels qui sont formés chaque année à plein d'accompagnements et de métiers. Et effectivement, aujourd'hui, c'est simplement de faire bouger les lignes, et en tout cas, c'est nos ambitions. C'est l'ambition de cette étude, c'est l'ambition du film aussi, parce que c'est de mener quand même, d'amener le débat auprès de nos, je dirais, des pouvoirs publics aussi, et puis de redonner un petit peu d'ouvrir le débat et de réengager collectivement la société sur l'accompagnement des vulnérabilités. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, il n'y a pas que les EHPAD. Toutes nos institutions aussi ont besoin de ce re-questionnement d'accompagnement. J'espère avoir traduit ce que le docteur Joitel vous aurait partagé.
Bah absolument.
Mais voilà, c'était
passionnant. Voilà. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je regardais pas. On dépasse un petit peu l'heure, mais très rapidement, est-ce que vous ne pensez pas que l'âge très élevé auquel arrive et malheureusement l'état de santé très dégradé, quand les personnes arrivent en EHPAD, est un des facteurs limitants à la mise en place de tout ce que vous proposez?
Alors, je ne sais pas si c'est un facteur limitant, parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui arrivent très jeunes dans nos établissements.
Quand elles ont des formes très sévères.
Mais quand elles ont des formes parfois avancées.
Voilà, mais alors disons plutôt des formes très sévères. Oui. Plutôt.
Je pense qu'on doit travailler beaucoup plus en partenariat avec les services de ville, plus d'ouverture d'accueil de jour, plus d'intervention pour travailler en amont et la prévention. Voilà. Mais je ne pense pas que l'arrivée, le stade plus sévère, parce qu'effectivement, des personnes qui sont plus autonomes physiquement pour aller dans ce manoir, nous empêchent pas de réfléchir quand même. Pour ces personnes-là et pour celles qui sont plus dépendantes, on peut être en fauteuil roulant et continuer à mener des activités de la vie courante.
Très bien. Oui, alors une question, oui, avec plaisir.
Oui, en fait, vous parliez que justement dans le manoir, il n'était pas sécuritaire, etc. Mais le souci, c'est qu'on est obligé de prendre des mesures de sécurité parce qu'on est obligé d'anticiper, étant donné qu'il y a beaucoup plus de familles qui sont procédurières.
Donc on c'est pour ça la question des familles partenaires et d'engager. Je donne un exemple. Il y a des unités protégées qui commencent à vouloir des unités protégées dites ouvertes. C'est des réflexions que l'on mène, en tout cas au sein de nos établissements, où les résidents ont libre circulation, peut-être, dans tout un environnement de l'établissement et pas simplement une unité, en y mettant des parts de sécurité, mais en faisant participer aussi les familles à cette réflexion-là. Dernièrement, sur l'établissement, on a un résident qui avait ce besoin de pouvoir sortir de l'établissement, continuer à sortir de l'établissement, avec des troubles cognitifs. L'interdire, c'était le risque là de créer le besoin de fugue, parce que là, pour le coup, c'était un vrai besoin. En équipe, on s'est dit, ben, voilà, soit on essaye à tout prix d'être sécuritaire et de l'empêcher d'eux, mais ça va être compliqué, parce que le 100% présentiel, pour s'assurer qu'il n'arrive pas à un moment donné quand même arriver jusqu'à la porte de sortie, je ne pourrais pas le garantir. Est-ce qu'on peut travailler avec la famille, avec les équipes, à peut-être réfléchir à lui laisser la possibilité de sortir? Comment on l'a mis en place? Donc, c'était partagé avec la famille et effectivement, il sort, mais il sait qu'il doit passer par la case d'accueil. Il a un badge, il n'a pas le droit de sortir sans ce badge. Et en fait, on a mis tout un process, un rituel même pour lui. Il le sait, il sort avec son badge. On sait à quelle heure il sort. Généralement, on sait à peu près son parcours. Et puis, on peut s'inquiéter si on ne voit pas arriver. Dernièrement, j'ai appris qu'il a été en bus jusqu'à Martigues.
Donc, voilà.
J'y engage ma responsabilité, mais je réponds à son besoin. Je le partage avec la famille.
Oui, parce que du coup, le fait de les empêcher de faire ce qu'ils vivent, on crée des troubles, en fait.
Mais il aurait su revenir, hein, sur la petite anecdote, parce qu'on a checké. On s'est rendu compte qu'il a très bien su, il avait encore la capacité d'acheter son ticket de bus, de prendre le bus, de savoir où il allait, parce qu'il allait effectivement chez lui. Il avait prévu d'aller chez le coiffeur et de revenir, parce que son épouse est sur l'établissement, et de revenir quand même pour dîner avec son épouse. Mais oui, c'est des questionnements, en fait.
Mais bien souvent, quand il y a des fugues...
Une dernière question, pardon. Non, allez-y, une dernière.
Mais en fait, on s'est rendu compte que bien souvent, quand il y a des fugues, généralement, la première chose qu'ils font, c'est de rentrer chez eux, en fait.
Ah oui, souvent, on voit la dernière adresse... Alors, attention, le retour chez eux, ça dépend où ils en sont dans l'élimination de la mémoire rétrograde. Des fois, ça peut être le domicile de ses parents, mais
ah oui, le domicile des parents.
Oui. Ah bah oui, si.
C'est de la mémoire antérieure. D'accord. Merci infiniment. Merci vraiment.